Ma conviction, c'est qu'en effet, il n'aurait pas laissé sa maman sans nouvelles à Noël. Rien qu'un coup de téléphone, même en colère, il aurait appelé. Il ne l'a pas fait. J'envisage plutôt une issue morbide.
Bonsoir. Et si la clé d'une mystérieuse double disparition se trouvait dans quelques ossements récemment découverts dans une forêt savoyarde? Les familles de Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou aimeraient y croire, tout comme elles n'ont cessé pendant toutes ces années d'espérer qu'une piste vienne enfin éclairer ces inexplicables absences, celle de Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou, volatilisés en 2011 et 2012 à exactement un an d'intervalle, exactement à la même occasion, un festival de musique, exactement au même endroit, le fort de Tamiers, en Savoie. Quelques années plus tard, l'ombre de Nordal Lelandais, le meurtrier de la petite Maëlys et du caporal Arthur Noyer, a plané sur ces disparitions, forcé de constater que cette ombre reste encore pesante, même si aucun lien n'a pu être formellement établi par les gendarmes entre Lelandais et les disparus du fort de Tamiers. Deux hommes qui, en quelques secondes, à la faveur de la nuit, ont tout simplement été effacés du paysage et n'ont jamais plus donné aucun signe de vie. Avec nos invités, nous allons voir ce soir si les derniers rebondissements de l'enquête, et notamment la découverte de ces ossements, sont susceptibles d'éclairer le dossier sous un jour nouveau, s'il reste encore des possibilités, des chances de résoudre cette insondable et sombre énigme.
20h-21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.
Et ce soir dans l'heure du crime, les disparus du fort de Tamiers, 2011 et 2012, deux hommes qui vont successivement s'évaporer au même endroit, sans témoin, dans un lieu pourtant fréquenté par des centaines de personnes. Cette nuit du samedi 10 au dimanche 11 septembre 2011, Jean-Christophe Morin, 22 ans, est venu la passer à 1000 mètres d'altitude au fort de Tamiers, juste à côté d'Albertville en Savoie. Ici se tient chaque année un festival de musique électro, rendez-vous des teufeurs qui peuvent s'amuser toute la nuit sans risquer de gêner qui que ce soit. Le lieu est isolé, rendez-vous aussi d'une faune moins fréquentable de dealers qui profitent de l'événement pour écouler ecstasy et autres substances dopantes. Jean-Christophe n'a pas de voiture, il s'est rendu au festival en stop avec l'un de ses meilleurs amis. Vers 23h, celui-ci l'a totalement perdu de vue, mais dans le brouhaha de la soirée, il ne s'est pas vraiment inquiété. Vers 1h du matin, l'un des responsables de la billetterie se souvient avoir vu sortir Jean-Christophe, hagard et paniqué de l'enceinte du festival. Il n'aurait alors prononcé qu'une seule phrase « Quelqu'un m'en veut ». Le jeune homme, sac à dos à l'épaule, se serait enfui en courant en direction de la forêt environnante. Le surlendemain, l'ami qui l'accompagnait au fort de Tamiers frappe à la caravane dans laquelle il vit. Aucune réponse. La sœur de Jean-Christophe Morin, Adeline, et son père, Daniel, vont dans les heures suivantes signaler sa disparition à la gendarmerie. Un an plus tard, nuit du 7 au 8 septembre 2012, Ahmed Amadou, 45 ans, est lui aussi venu passer la soirée au festival de musique électro du fort de Tamiers. Il est originaire de Chambéry, mais vit dans l'Isère, à Pont de Beauvoisin. Lui non plus n'a pas de voiture, il n'a plus son permis. Il est donc venu dans celle d'un ami, Yann Kersuzan, 33 ans. Celui-ci s'est fait remarquer devant l'entrée du festival en faisant déraper son véhicule. L'accès à la fête lui a été interdit, il a donc décidé de rentrer chez lui, laissant Ahmed tout seul au fort de Tamiers, condamné à rentrer par ses propres moyens. Il a l'habitude, il pratique souvent l'autostop. Au matin du 8 septembre, Yann Kersuzan s'est inquiété pour son ami. Il a tenté de le joindre sur son téléphone portable, mais tombé sur sa messagerie. La famille d'Ahmed Amadou est en premier lieu un cousin avec qui il était très proche, vont alors s'inquiéter et eux aussi prévenir la gendarmerie de cette disparition. Les deux cas sont traités dans des gendarmeries différentes. Sallanches pour l'un, Albertville pour l'autre. Aucun rapprochement n'est immédiatement établi entre ces affaires, malgré la coïncidence de lieu et de date. Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou sont majeurs. Ils ont très bien pu décider tout simplement de disparaître. Le lieu étant très escarpé, on peut craindre également qu'ils aient été victimes d'un accident, d'une chute fatale. Bonsoir Thibault Solano.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'avoir accepté ce soir l'invitation de l'heure du crime. Vous êtes journaliste au journal Marianne. Vous connaissez très bien cette affaire. Vous avez été en reportage plusieurs fois sur ces lieux, dans ce secteur de ces deux mystérieuses disparitions. Alors si vous voulez bien, Thibault Solano, évidemment on va rentrer dans l'enquête au fur et à mesure de cette heure du crime, mais on va prendre tout de suite dans l'ordre un petit peu le profil, si je puis dire, de ces disparus. Alors qui est tout d'abord Jean-Christophe Morin ?
Alors Jean-Christophe Morin à 22 ans quand il disparaît. C'est un jeune homme qui a grandi en région parisienne, qui a connu une scolarité difficile, qui a eu aussi quelques mauvaises fréquentations, qui a donc connu en fait des années de galère en région parisienne. En 2009, sa sœur Adeline lui propose de la rejoindre en Haute-Savoie pour tenter sa chance. En fait, la galère continue un peu. Alors certes, il multiplie des petits boulots, notamment dans un hôtel en Savoie ou alors sur des chantiers. Les mauvaises fréquentations continuent peut-être également. Et en fait, ça nous amène au printemps 2011, donc 5 à 6 mois avant sa disparition, où là, Jean-Christophe Morin s'installe en fait dans une camionnette, une ruine en fait, près du lac de Passy, en Savoie, en Haute-Savoie. Et en fait, il bascule, en tout cas il s'approche d'une certaine forme de marginalité. Il a également des ennuis avec la justice puisqu'il est convoqué devant le tribunal en octobre 2011 pour détention de stupéfiants. Il n'ira jamais puisqu'il disparaît un mois avant.
Adeline Morin, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes la sœur de Jean-Christophe Morin. On vient de dresser très rapidement son portrait. Votre frère n'est pas quelqu'un qui, je puis dire, cherche les embrouilles. C'est plutôt quelqu'un de calme, même s'il vit dans des conditions précaires, etc. et qu'il a une vie peut-être un peu compliquée.
Oh bah, tout à fait. C'est plutôt quelqu'un qui laisse un souvenir assez sympathique. Ce que ses amis rappellent, c'est surtout le rire qu'il avait. Et puis surtout, c'est l'une des premières pistes qu'on a voulu exploiter. J'ai posé la question à ses amis, savoir s'il pouvait avoir des embrouilles, des histoires, des gens qui lui en voulaient. C'était une des possibilités. Et c'est vraiment pas ce qui est ressorti. Mmh. Il avait pas beaucoup d'argent, mais il avait pas de dettes. Donc, a priori, il faisait avec le peu qu'il avait. Donc, c'est une piste qu'on a tout de suite exploitée. Après, on en est toujours à l'étape de l'enquête.
Bien sûr.
Voilà.
On va y venir, Adeline Morin, bien sûr, à l'enquête. Je voulais juste vous poser encore une petite question. Est-ce que votre frère, c'est quelqu'un de Jean-Christophe ? Est-ce que c'est quelqu'un de sociable ? Quelqu'un qui peut suivre comme ça des personnes, faire du stop, etc. Sympathiser avec peut-être le premier venu ?
Oui, c'est quelqu'un. Oui, je pense que si quelqu'un est sympathique et puis que c'est plutôt une bonne ambiance, puis on voit bien dans ce qui ressort de lui, dans les photos qu'il peut y avoir sur les fêtes auxquelles il participait. En grand différent, il sourit, il s'amuse, il est plutôt sociable.
C'est vrai qu'on le voit finalement très heureux hein, dans sa vie. C'est un garçon qui est toujours souriant sur les photos.
Il se cherche. Oui. Il a 21 ans, oui, mais et il se cherche.
C'est aussi l'âge. C'est aussi l'âge où on peut effectivement se chercher. Il y a évidemment pas de mal à ça.
Il faisait des tests, je pense. Et malheureusement.
C'est possible. Mais on va venir un petit peu évidemment sur ce qui a pu se passer par la suite. Thibault Solano, je reviens à vous, journaliste au journal Marianne, et vous connaissez encore une fois très bien cette affaire. On prend le deuxième disparu, Ahmed Amadou. Alors, son profil.
Alors, Ahmed Amadou, lui, il a 45 ans quand il disparaît. Il a un point commun avec Jean-Christophe Morin, c'est qu'il ne roule pas sur l'or. Il n'a pas d'emploi. Il est considéré comme travailleur handicapé depuis qu'il s'est déboîté l'épaule sur un chantier. Il vit seul. En fait, il vit dans un HLM à Chambéry-le-Haut. Mmh. Et c'est quelqu'un qui, lui aussi, peut avoir quelques fréquentations un peu limites.
Alors, j'ai dit qu'il vivait en Isère, moi, mais parce que j'avais lu. Il a beaucoup voyagé, c'est ça ?
Il a des attaches familiales en Isère.
D'accord.
Effectivement, juste à côté de Pont de Beauvoisin, on y reviendra.
Oui, on y reviendra.
Et effectivement, il se rendait fréquemment en Isère.
Alors, il y a des similitudes entre les deux, vous l'avez dit, mais il faut quand même bien les souligner parce qu'elles sont sans doute importantes. Ce sont deux garçons qui vivent, on peut le dire, dans une espèce de précarité. Ils n'ont pas de voiture,
oui.
Ils se déplacent. On sait que le stop, c'est dangereux, etc., qu'il y a des affaires. Et tous deux vivent un petit peu en marginalité, c'est ça ?
Ouais, disons que, effectivement, quand on est au chômage et qu'on n'a pas beaucoup d'argent, on vit en tout cas dans une forme de précarité. Et parfois, on peut être amené à rencontrer, avoir de mauvaises fréquentations. Ahmed Amadou, par exemple, le soir où il disparaît, on sait qu'il fait quelques bars avec un homme qu'il connaît simplement depuis quelques jours, qui est un homme qui vit de squat en squat, qu'il héberge d'ailleurs, qu'il est censé héberger cette nuit-là. Et donc voilà, la précarité peut amener aussi parfois à faire de mauvaises rencontres.
À faire de mauvaises rencontres. Alors évidemment, c'est compliqué à dire puisque l'enquête elle-même n'a pas pu l'établir. Que penser de cette soirée pour ces deux hommes ? On peut dire qu'ils sont arrivés évidemment en stop, ça on le sait, enfin au moins l'un d'entre eux, Jean-Christophe est arrivé en stop, l'autre est arrivé avec, je crois, un ami. Ils sont repartis aussi en stop,
on ne sait pas, en tout cas, c'est sûr qu'ils n'avaient pas de voiture eux-mêmes, qu'ils ne pouvaient pas rentrer à pied, parce qu'il faut effectivement se figurer les lieux. On est à 1000 mètres d'altitude, au bout de routes sinueuses. Chambéry, c'est pas à côté. Le lac de Passy, c'est pas juste à côté.
Il faut y aller, vraiment.
Faut y aller. Donc, il faut forcément rentrer chez soi en voiture. Or, on perd leurs traces très tôt. On perd, par exemple, la trace d'Ahmed Amadou, alors que, justement, il est en train de demander au vigile où se trouve l'entrée du festival. Donc, on perd sa trace au moment où il prend la direction.
Alors là, il s'évapore. Et à deux reprises, d'ailleurs, à un an d'intervalle, c'est quand même extrêmement curieux et très troublant. C'est que chaque fois que les personnes s'approchent de la billetterie, je puis dire, etc., c'est l'endroit où, finalement, ils vont disparaître, que ce soit pour Jean-Christophe ou que ce soit pour Ahmed Amadou.
Oui, à la différence près que Jean-Christophe Morin partait la direction de la forêt, d'après le dernier témoignage qui est fiable.
Qui est le seul témoignage, d'ailleurs.
Qui est le seul témoignage, a priori. Et alors que Ahmed Amadou, lui, prenait la direction du festival, puisqu'il venait d'arriver avec la personne qui lui servait de conducteur, que ce conducteur avait créé des problèmes parce qu'il s'amusait à faire des dérapages, rodéo sur le parking.
De burn, comme on dit.
Voilà, de burn devant les vigiles. Les vigiles n'ont pas trop apprécié non plus. Donc il y a une altercation entre ce conducteur et les vigiles. Et c'est pendant cette altercation qu'Ahmed Amadou se fait discret et s'évapore.
Les familles des disparus sont désemparées. L'enquête ne livre aucun élément probant. Elles vont essayer d'activer les recherches, mais ont vite le sentiment de ne pas être entendues. Il va leur falloir attendre 6 ans pour que le dossier rebondisse. Les proches de Jean-Christophe Morin ont dès le début pensé que quelque chose de grave lui était arrivé au fort de Tamiers. Malgré une vie qui a toujours été un peu instable, il n'est pas dans ses habitudes de disparaître et de ne plus donner de nouvelles à sa famille, à sa sœur Adeline, chez qui il était venu vivre en Haute-Savoie, ou encore à sa mère ou à son père. Les gendarmes disent n'avoir aucune trace du jeune homme. Quelques semaines après la disparition, la famille organise une vaste battue autour du fort de Tamiers, à une centaine de mètres de là où se trouve l'entrée du festival. On découvre le sac à dos de Jean-Christophe, abandonné près d'un conteneur à verre. Le bagage a manifestement été jeté à cet endroit, à moins qu'il n'ait été ramassé dans la forêt par un promeneur et déposé ici. Le sac à dos contient une petite somme d'argent, 10 euros. En revanche, rien n'est retrouvé concernant Ahmed Amadou. Avant de partir au festival, il avait retiré une somme conséquente de la banque, presque toutes ses économies, 300 euros. Personne ne sait ce qui est advenu de cet argent. Les gendarmes vont poursuivre leurs recherches pour tenter de retrouver les corps de Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou. Les survols du massif forestier avec un hélicoptère et l'utilisation de chiens renifleurs ne vont rien donner. Aucune piste digne de ce nom. Les familles aimeraient bien que les choses bougent davantage, mais elles ont le sentiment de crier dans le désert. En 2013, 2 ans après la disparition, le dossier Jean-Christophe Morin est refermé. 6 mois après la clôture de l'enquête, la fiche de Jean-Christophe a été supprimée du fichier des personnes recherchées, déplore Adeline Morin dans le magazine Marianne. Idem pour Ahmed Amadou en 2014. Pour lui aussi, les recherches cessent, faute d'éléments concrets. À partir de ce moment-là, les familles se retrouvent face à une voie sans issue. Les investigations n'iront pas plus loin. Sauf hasard ou témoignage inattendu, les cas Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou resteront des cas non résolus. Adeline Morin, on vous retrouve au téléphone de l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes la sœur de Jean-Christophe Morin. Est-ce qu'on vous a expliqué, Adeline Morin, pourquoi les dossiers étaient refermés aussi vite ?
Alors, c'est même pire que ça. Hein. Jean-Christophe a disparu en septembre. Je pense qu'en novembre-décembre, on nous disait d'arrêter de venir à la gendarmerie, qu'il n'y avait aucune piste, et que là, s'il n'y avait pas d'éléments nouveaux, malheureusement, il ne pouvait rien faire de plus. Donc, on a appris que très récemment, en fait, que c'était en 2013 que tout s'était arrêté. Mais comme on n'avait pas porté plainte, aucun service ne s'est senti concerné ou obligé de nous appeler, en fait. Donc, voilà.
C'est vous, Adeline Morin, et puis vos proches, vos amis, c'est vous qui avez décidé de faire cette battue, finalement, où on va découvrir ce sac.
Alors non, rectificatif. C'est bien la battue a été organisée. Malheureusement, non, on n'a pas trouvé d'éléments à ce moment-là. Le sac a été retrouvé par une équipe spécialisée de recherche en montagne.
D'accord. Donc
de PDHM.
Oui, c'est ça, de la gendarmerie.
C'est ça. Ce qui est un petit peu choquant, c'est que le sac a été retrouvé, on va dire, à une trentaine de mètres du fort, secteur où moi, on m'avait certifié que les recherches avaient été faites. Donc, ce sac, soit il a été mis là après, soit il a été, déplacé. Mais c'est vrai que ça pose question quand même.
Bien sûr. Thibaut Solano, journaliste au journal Marianne, qu'est-ce qu'il raconte, ce sac à dos? Il a parlé, il a donné quelques indices, des traces ADN, des empreintes?
Non, pas à ma connaissance, puisque effectivement, deux choses seulement ont été retrouvées dans ce sac. C'est effectivement, comme vous l'avez dit, un billet de 10 euros. Et ensuite, une petite feuille qui indiquait que Jean-Christophe Morin avait perdu sa carte d'identité. Donc c'est tout ce qu'on a retrouvé. Comme c'est près d'un conteneur à verre, on peut imaginer que Jean-Christophe Morin a fait une pause à cet endroit-là, dans la soirée, à l'orée de la forêt, et qu'après, il s'est passé quelque chose, qu'il a oublié son sac ici. Mmh. C'est une piste. Ou alors, on peut imaginer quelque chose de plus violent.
Il y a eu un gros ratissage, comme on dit, de cette région par les gendarmes. Là, Adeline Morin nous disait que le PGHM, le peloton de gendarmerie de haute montagne, avait découvert finalement ce sac à dos. On a ratissé beaucoup
le
secteur.
Il y a eu des choses faites, il faut le dire. Il y a eu hélicoptère, il y a eu chien renifleur, il y a eu gendarmes, donc les gendarmes spécialisés de la montagne. Maintenant, il faut savoir aussi que les familles de victimes dans cette affaire, on leur a dit aussi, à un moment donné, on va pas trop loin dans les recherches parce que par le passé un policier serait mort en faisant des recherches parce que ce serait très escarpé.
Un accident donc.
Voilà, un accident. Mmh. Donc il y a ce côté aussi dangereux du territoire et de fait, quand l'enquête a été ouverte des années plus tard, la juge d'instruction, à ma connaissance, a dit que des recherches sur le territoire restait à faire. Ça veut bien dire que tout n'avait pas été totalement exploré à l'époque.
Il faut quand même dire et le préciser, parce que c'est important, que c'est une région très escarpée,
oui.
Qui est vaste,
voilà.
Avec des forêts profondes, des ravins, des crevasses.
Voilà.
Donc c'est assez compliqué, c'est un terrain qui n'est pas facile et qui a son importance d'ailleurs, parce qu'il faut connaître cet endroit. On n'y va pas par hasard, vous le disiez tout à l'heure.
Absolument, je me suis rendu sur place, c'est quand même des routes sinueuses, c'est à un côté isolé, un peu lugubre, reculé. Et effectivement, moi, je me promènerai la nuit là-bas, je ne serai vraiment pas du tout rassuré.
Pas rassuré du tout, oui. Adeline Morin, un petit mot sur ces recherches. Selon vous, elles ont été suffisantes, bien menées? Alors, vous allez sans doute me répondre non, parce qu'effectivement, il n'y a pas de résultat.
Je peux argumenter aussi sur le non. En fait, le problème, c'est qu'elles n'ont pas été faites tout de suite, déjà. Et ce qu'on se rend compte, c'est que quand il y a la médiatisation, les moyens sont déployés. Mais quand on aura les dates vraiment des recherches, on va se rendre compte qu'elles ont été faites à 3, 4, 5 semaines à peu près. Donc forcément, il y a des choses qui se perdent et elles ont été faites parce qu'il y a eu médiatisation. S'il n'y avait pas eu médiatisation, il n'y avait aucune recherche de fait. On n'arrêtait pas de nous dire qu'on allait retrouver, de toute façon, c'était les chasseurs et les ramasseurs de champignons qui allaient nous annoncer qu'ils avaient trouvé un cadavre.
Thibaut Solano, y a un rapprochement à l'époque dans le cas de ces deux disparus?
Non, pas tellement. Alors, dans les médias, quand on parle de la disparition d'Ahmed Amadou, on rappelle quand même qu'une autre personne a disparu un an plus tôt.
Brièvement.
Voilà, on voit effectivement les deux visages qui peuvent s'afficher dans les colonnes de la presse régionale. Mais on
sans plus.
Voilà, on parle pas de tueur en série, par exemple.
Il va falloir encore attendre 3 ans pour que l'on regarde les dossiers des deux disparus avec un œil neuf, sous le prisme d'un nouveau personnage apparu dans le paysage criminel, un dénommé Nordal Lelandais, suspecté alors de l'enlèvement d'une petite fille et d'un jeune militaire. Au mois de décembre 2017, Nordal Lelandais fait la une des journaux et sa photo apparaît à la télévision. L'ancien maître chien qui habite Domsin dans l'Isère est suspecté d'être un prédateur. Un homme qui aurait commis plusieurs crimes. Il a été impliqué et sera bientôt confondu dans deux affaires. Celle de la petite Maëlys lors d'un mariage au mois d'août 2017 où il s'était invité. Il avouera l'avoir enlevé puis tué. Son squelette sera retrouvé dans une forêt de la région. Nordal Lelandais a également abrégé la vie du caporal Arthur Noyer, 24 ans, pris en stop à la sortie d'une boîte de nuit. Son crâne a été découvert dans la végétation sur la commune de Montmélian. Nordal Lelandais aurait-il commis d'autres forfaits? Les gendarmes se penchent sur la question, tout comme l'association de recherche des personnes disparues, qui incite les enquêteurs à questionner Lelandais sur les disparitions non résolues de la région. En premier lieu, bien sûr, celle de Jean-Christophe Morin et de Ahmed Amadou. L'association a recensé au total une trentaine de cas suspects. En février 2018, au regard de l'ampleur prise par l'affaire Lelandais, les familles Morin et Amadou décident de porter plainte pour enlèvement et séquestration. Une juge d'instruction est désignée. Elle s'intéresse bien sûr au profil de Nordal Lelandais, un homme habitué à la nuit, aux sorties et à la consommation de cocaïne. Il se peut très bien qu'il se soit rendu au festival électro de Fort-de-Tamier. Qui plus est, il habite une commune toute proche de celle de Ahmed Amadou qui vit à Pont de Beauvoisin, là où justement avait été enlevé Maëlys. Selon un cousin du disparu, les deux hommes se connaissent au moins de vue. Une vidéo reçue par la sœur de Jean-Christophe va semer le trouble. Il s'agit d'un homme filmé au fort de Tamier en 2012, année de la disparition d'Ahmed Amadou, et ressemblant étrangement à Lelandais. Les gendarmes écartent finalement cette piste. Il ne s'agit pas de Nordal Lelandais sur ces images. Les recherches sur le terrain vont se poursuivre. Des crevasses et des ravins vont être explorés. Certains alentours du fort de Tamier vont également être revisité. Adeline Morin, vous êtes ce soir l'une de nos invitées ce soir dans l'heure du crime. Vous êtes, je le rappelle, la sœur de Jean-Christophe Morin, l'un des deux disparus. Adeline Morin, qu'est devenue cette enquête suite à la plainte que vous avez déposée?
Récemment, on a appris qu'elle était toujours en cours. Ça nous a un petit peu rassurés et on a compris que 2 ans pour ce type d'enquête, c'était rien du tout.
Bien sûr.
Et qu'il fallait s'armer de patience parce que c'était que le début. Donc, on a la chance d'avoir Maître Herman qui a accepté de prendre notre affaire. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que la plainte n'est apparue qu'en février-mars 2018. Parce qu'avant, on ne savait pas, en fait, qu'il fallait porter plainte pour qu'il y ait une enquête. On pensait que l'enquête se faisait d'office quand une personne disparaissait. Et en fait, non.
Vous étiez un petit peu, effectivement, dans l'inconnu. Et vous avez découvert ce monde de la justice qui vous était, je suppose, totalement étranger.
C'est ça.
Alors, vous avez de bons contacts aujourd'hui avec l'autorité judiciaire. Il y a cette juge d'instruction qui mène l'enquête.
Alors, on a eu un changement de juge d'instruction il y a 1 an et demi. Mmh. Du coup, ça peut être positif parce que ça amène une nouvelle relation. Donc, ça
oui,
pouvait
et puis,
être
un,
mieux.
Et puis, un regard tout neuf aussi sur le dossier.
C'est ça. Mais du coup, il faut tout reprendre à la base. Mmh. Donc, ça fait reperdre un petit peu de temps. Mais c'est vrai que je pense que ça a fait du bien. On attend quand même toujours d'être reçu. Ça fait 1 an et demi que maintenant il enquête. Je pense qu'il peut recevoir les familles pour les tenir au courant. Ça serait un minimum humain quand même. Surtout qu'on apprend que d'autres juges d'instruction ne traitent pas du tout les familles comme ça. En fait, on découvre que le système judiciaire dépend aussi beaucoup des personnes.
Évidemment. Voilà. Là, évidemment, ça dépend beaucoup des magistrats et de la façon qu'ils ont de travailler, mais ça ne veut pas dire parce qu'ils ne reçoivent pas les familles qu'ils ne font rien. Il y a des magistrats qui préfèrent travailler un petit peu plus dans la confidentialité et dans la discrétion. Thibault Solano, journaliste au journal Marianne, je viens de parler de Nordal Lelandais, alors évidemment, c'est un peu l'acteur majeur presque de ce dossier, j'ai envie de dire, c'est cette ombre persistante qui plane sur cette affaire. Quels sont les points de rapprochement, je peux dire, entre Nordal Lelandais et ces deux disparitions? Les similitudes, je veux dire, dans le mode opératoire, éventuellement, parce que pour l'instant, il n'y a pas de lien établi en Nordal.
Bien sûr, mais effectivement, les gendarmes l'avaient retenu parmi les cas à approfondir une fois que Nordal Lelandais a été mis en cause dans l'affaire Arthur Noé et l'affaire Maëlys. Alors, en fait, ce qui rapproche, c'est effectivement d'abord, c'est géographique, puisqu'on est à 80 km, Fort de Tamier est à 80 km de Domessin où vit et où vivait la famille Lelandais. On est dans le monde de la nuit, de la fête, de la drogue, et Nordal Lelandais était familier de ce monde-là, même s'il le sera encore plus par la suite, puisqu'il va s'initier aux drogues dures. Mais il y a d'autres choses troublantes. Effectivement, Jean-Christophe Morin est venu en stop. Ahmed Amadou n'était pas véhiculé, donc s'il devait partir, il devait forcément repartir en stop. Et Nordal Lelandais, lui, on sait que ça fait partie de son mode opératoire, la voiture, puisqu'il a pris en stop Arthur Noyer la nuit où Arthur Noyer a été tué. Il a également enlevé Maëlys à bord de sa voiture. Et puis, on peut ajouter à cela d'autres éléments. C'est que Ahmed Amadou avait ses habitudes à La Bridoire, une commune d'Isère, ou de Savoie, pardon, très proche de Domessin, même voisine de Domessin, où vivait la famille Lelandais.
Ce qui fait dire à son cousin, Ahmed Amadou, que peut-être les deux se connaissaient,
voilà,
au moins de vue. Ils auraient fréquenté les mêmes lieux.
Absolument, il n'y aurait absolument rien de spectaculaire, est-ce qu'ils se soient déjà croisés, puisqu'effectivement, on est dans un territoire assez restreint, c'est pas très grand, hein, c'est des petites communes, et voilà, quand on sort, quand on va dans les bars, on peut effectivement se croiser, et je ne serais absolument pas surpris que Ahmed Amadou et Nordal Lelandais se soient croisés au moins une reprise, voire à plusieurs reprises.
Alors, il faut ajouter à ça, Thibault Solano, même s'il faut le répéter, pour l'instant, il n'y a aucun trait d'union qui est fait entre Nordal Lelandais, sur le plan judiciaire, je parle, et ces deux disparitions. Il faut être très clair là-dessus. Il n'y a pas de charge contre Nordal Lelandais là-dessus. Il y a un élément troublant, quand même, qu'il faut rappeler. C'est le mode opératoire après la mort de ces deux victimes, la petite Maëlys et le caporal Arthur Noyer. C'est-à-dire qu'on va retrouver finalement des ossements plus ou moins enterrés dans des forêts ou de la végétation de la région. C'est des endroits qu'il connaît bien. Et donc il y a une habitude effectivement d'aller déposer les corps à des endroits qui sont quasiment impossibles. Il n'y a que lui qui sait où ça se trouve.
Bien sûr, Nordal Lelandais est un familier du paysage savoyard, de la montagne. Il faisait de l'escalade, il faisait de la randonnée. Il était sportif. Et c'est cela l'a aidé à dissimuler les corps de Maëlys et d'Arthur Noyer. Et les experts psychiatres qui se sont penchés sur son cas ont aussi souligné cette capacité à dissimuler qui en a fait un tueur. Alors, il a avoué ses crimes, mais il n'a pas encore été jugé. Donc, qui en a fait un prédateur aux yeux des experts psy. Et ça, forcément, ça nous rappelle aussi les disparus de Tamil, puisque si un corps n'est pas retrouvé, c'est qu'il est peut-être très bien caché.
Pour l'instant, l'enquête est au point mort. Impossible de retrouver un indice permettant de conduire les enquêteurs sur les traces de Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou. À moins qu'une découverte des ossements relance les investigations. À la mi-octobre 2020, un promeneur découvre des ossements humains dans la forêt de Plancherine, en Savoie, à proximité du fort de Tamier, dans la zone où se sont évaporés à un an d'intervalle Jean-Christophe Morin et Ahmed Amadou. Découverte gardée secrète, les familles des disparus en seront informées par la presse, en l'occurrence un média local, Les Sœurs Savoyards, au mois de janvier. La procureure de la République d'Albertville, Anne Gache, précise que ces ossements, a priori humains, ont été découverts le 16 octobre sur la commune de Mercury. Les analyses scientifiques ont été confiées à l'IRCGN, l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie. À ce jour, les familles n'ont, semble-t-il, pas été prévenues de quelconque résultat de recherche ADN. Elles ne se bercent d'ailleurs pas d'illusions et craignent que cette piste ne donne rien. Elles redoutent en fait que le dossier soit à nouveau refermé. En 2018, leurs avocats, Didier Seban, Corinne Herman, avaient été échaudés par le refus de la juge d'instruction d'exploiter les téléphones des victimes. Le 11 septembre 2019, les proches de Jean-Christophe et Ahmed ont scellé une plaque commémorative à l'entrée du fort de Tamier. Les visages des deux hommes y figurent. Pour les familles, 10 ans après les faits, cet endroit fait figure de sépulture pour les deux disparus. Thibault Solano, journaliste au journal Marianne, un mot sur ces ossements. Où est-ce qu'on en est? De quoi s'agit-il?
Alors, on sait qu'il y a plusieurs types d'ossements qui ont été retrouvés. Il y a eu des ossements d'animaux et il y a un crâne, un crâne humain. Simplement, on n'est pas tellement avancé puisque à l'heure actuelle, rien n'a filtré sur est-ce que ce crâne remonte à l'époque gauloise ou est-ce que ce crâne remonte à l'année 2011 ou 2012. On sait que ça.
On n'arrive pas à le savoir, ça. C'est...
Alors, en tout cas, c'est gardé secret, mais ça prend plusieurs temps. Il y a plusieurs recherches qui doivent être menées sur ce crâne, non seulement pour le dater, mais en plus, il y aura effectivement des recherches pour trouver un éventuel ADN, comme ça avait été le cas avec le crâne d'Arthur Noyer. Mmh. Et on imagine être fixé peut-être d'ici l'été sur à qui appartenait ce crâne.
À qui appartenait ce crâne. Adeline Morin, sœur de Jean-Christophe Morin, est en ligne ce soir dans l'heure du crime. Vous avez un espoir dans cette piste des ossements? Ou comme je le disais, vous êtes plutôt dans l'attente?
C'est difficile à répondre quand on nous dit « Avez-vous l'espoir que votre frère soit victime d'un tueur en série ?» ou « Avez-vous l'espoir que ce soit les ossements de votre frère ?» C'est toujours difficile.
Bien sûr.
Oui, ça nous apporterait des réponses. Après, je vous avoue que... Et puis, dans tous les cas, j'ai envie de vous dire, même si c'est un crâne, ça veut dire un disparu. Alors, oui. Ça permettrait forcément d'apporter des réponses à l'autre famille. Mais moi, la première chose que je me suis dit, c'est qu'il y aurait un de nous qui ne saurait pas et... Et ça resterait
difficile. Oui, c'est pas faux. Ça serait une tragédie dans tous les cas.
C'est ça, que exactement. Dire. Et, oui, tout à fait, c'est ça. Et c'est vrai que pour l'instant, moi, je ne sais pas, j'en sais rien du tout au niveau des ossements. Ils nous ont rien communiqué. J'ai lu dans la presse aussi que la procureure disait qu'il fallait penser aux familles, qu'il fallait faire attention aux familles, ne pas leur donner trop d'infos. Je pense que l'inverse nous fait beaucoup, beaucoup plus mal. De ne nous donner aucune info, c'est très difficile. Ah, je pense qu'on pourrait nous expliquer ce que nous a dit l'avocate. Il y a différents types d'analyses et je pense qu'on n'est pas stupide, on pourrait nous dire, voilà, pour ces analyses, il faut estimer tel temps, entre un mois, trois mois. Alors, c'est de la science, tout est variable, mais c'est vrai que ce que je me dis, c'est que là, obligatoirement, on aura une réponse.
Oui,
elle sera peut-être tardive.
Et ce que vous dites aussi, c'est que depuis 10 ans, c'est quasiment le silence, donc c'est un silence qui vous fait mal. Un petit mot, Adeline Morin, sur ces téléphones qui n'auraient pas été inspectés,
oui.
Si je puis dire. C'est quoi cette histoire? Parce que c'est très curieux quand on ne regarde pas les téléphones des victimes.
C'est encore lié au silence de la justice et qui n'explique pas les choses. C'est que de toute façon, ils n'avaient pas réellement besoin des données téléphoniques. Jean-Christophe, comme il a été dit, était déjà... un petit peu surveillé. Donc, de toute façon, ils avaient la grosse partie des informations qu'ils souhaitaient, ils les avaient déjà. Donc, il n'y avait pas d'importance. Ceci étant dit, ils ont été donc récupérés par la justice et c'est en cours d'exploitation. Maintenant.
Donc,
enfin.
Comme vous dites. Et ça serait bien que vous ayez effectivement des réponses, quelles qu'elles soient d'ailleurs, mais qui permettent un petit peu de vous éclairer. Thibault Solano, selon vous, là, vous connaissez bien le dossier, il y a eu quand même beaucoup de choses qui ont été faites par la cellule Ariane, par la gendarmerie, des ratissages, etc., des vérifications. Ça, on ne peut pas enlever ça aux enquêteurs. Ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Selon vous, quels actes d'enquête mériteraient d'être peut-être refaits, revus ou complétés?
Je pense que si des crevasses restent à explorer, comme j'ai cru comprendre que c'était le cas, il faut le faire, puisque si un corps a disparu, il a pu disparaître juste à côté du fort de Tamiers. Je pense que la chose importante, c'est que quand l'enquête préliminaire a eu lieu en 2011 et en 2012, on a cherché uniquement un corps. On n'a pas cherché les causes de la disparition. C'est-à-dire qu'on est tout de suite parti sur la théorie de l'accident, de la mauvaise chute. Donc on a perdu du temps. Maintenant, il faut explorer aussi la piste criminelle, puisque plusieurs éléments peuvent effectivement indiquer, suggérer une piste criminelle. On parlait par exemple de la somme d'argent d'Ahmed Amadou, 300 euros qui sont évaporés. On parlait des mauvaises fréquentations.
C'est ça. De faire l'entourage, peut-être un peu plus précisément,
voilà, absolument.
Des disparus.
Voilà, et de retrouver tous les gens qui étaient présents à ce festival. Il est possible, par exemple, que certains vigiles n'aient pas été interrogés.
Bien
certains
sûr.
Vigiles du festival.
Adeline Morin, vous êtes ce soir en direct dans l'heure du crime sur RTL. Est-ce que vous voulez en profiter pour lancer un appel aux témoignages? Et d'ailleurs, on les relaiera, nous, dans l'heure du crime. On vous fera passer des messages s'il y en a. On peut toujours, dans ce genre d'affaires, trouver quelqu'un qui a vu quelque chose et qui d'un seul coup fait tilt.
C'est ça. Et puis surtout, peut-être qu'à un moment, il y a le courage qui peut se déclencher au bout d'un certain nombre d'années.
Tout à fait.
Voilà, les gens étaient jeunes, c'était il y a 10 ans. On imagine qu'ils avaient peut-être 20 ans, ils en ont 30. Ils voyaient peut-être les choses autrement. Ils sont peut-être sensibles aussi à la douleur. Enfin, peut-être que je suis un peu trop naïve, mais je me dis que peut-être qu'ils peuvent être touchés par nos douleurs ou simplement être un citoyen, en fait. Simplement avoir une conscience et se dire, je peux faire quelque chose. Et je pense qu'il y a des gens qui savent. Il y a des gens qui étaient à la soirée. Nous, on y était en 2012. On a essayé d'avoir des témoignages. C'était peut-être trop frais encore. Et je pense vraiment, on a le groupe. Oui, dites-moi.
Non, là, on arrive au bout de l'émission. C'est pour ça, je suis désolé de vous couper. Mais on arrive au bout de l'émission. Donc, encore une fois, vous attendez des témoignages. Ça pourrait peut-être faire progresser. Et on les relaiera sur RTL. On vous les fera passer avec un immense plaisir. Merci beaucoup Adeline Morin, la sœur de Jean-Christophe Morin. Merci beaucoup Thibault Solano, vous étiez ce soir l'un de nos invités dans l'heure du crime, journaliste au journal Marianne, d'avoir été les invités de l'heure du crime avec ce soir l'affaire des disparus du fort de Tamiers. Il faut espérer que la vérité surgisse. Seul moyen, on l'a compris, d'apaiser la peine et la douleur des familles. Merci à Justine Vigneault, Marie Bossard, la préparation de l'émission, Marc Bisset, la réalisation. Et puis un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ensemble ce soir cette heure du crime.